Instruction adressée aux autorités constituées des départements de Rhône et de Loire et principalement aux municipalités des campagnes et aux comités révolutionnaires par la commission temporaire de surveillance républicaine établie à Villafranchie par les représentants du peuple. Le but de la révolution est le bonheur du peuple. À Villafranchie, de l'imprimerie républicaine de Tournachon-Molin, rue Mercière, numéro 51. Instruction adressée aux autorités constituées des départements de Rhône et de Loire par la commission temporaire. Les représentants du peuple, près l'armée des Alpes et dans les différents départements de la République, s'occupent avec un zèle infatigable de rétablir l'ordre troublé par l'infâme rébellion des Lyonnais, de punir les traîtres, de poursuivre les conspirateurs, de ranimer l'énergie des sans-culottes, d'assurer l'approvisionnement de l'armée et des citoyens, et surtout d'indemniser la partie pauvre et souffrante du peuple des pertes que lui ont occasionnées les crimes des riches contre-révolutionnaires. Pour s'aider dans des travaux aussi multipliés, aussi importants, ils se sont environnés de patriotes purs et éprouvés. Ils ont organisé une commission de sans-culottes, chargée de coopérer avec eux, de les soulager de la multitude des détails qui absorberaient un temps à de grandes vues, à de grandes opérations. D'imprimer sous leurs yeux le mouvement révolutionnaire aux autorités régénérées et de prendre, de concert avec eux, toutes les mesures de salut public que les circonstances pourront nécessiter et qu'un patriotisme prévoyant lui inspirera. La commission sent toute la grandeur de la mission à laquelle elle est appelée. Elle répondra à la confiance et au dessein des représentants du peuple. Mais au commencement de ses travaux, elle sent aussi qu'il est indispensable pour elle d'associer à sa surveillance celle des autorités, des comités révolutionnaires, des sociétés populaires et de tous les citoyens. Elle croit nécessaire de leur faire connaître l'esprit qui doit les animer aujourd'hui, les principales opérations auxquelles ils doivent se livrer, et enfin tout ce que la République a droit d'attendre, non seulement de leur civisme, mais de ce profond sentiment d'indignation, mais de ce généreux désir de vengeance qu'a imprimé dans leur cœur les crimes et la rébellion dont leur pays a été le théâtre. C'est dans cette vue qu'est rédigée la présente instruction. Elle sera divisée en plusieurs sections. La commission engage chacune des sociétés, chacun des individus qui la liront, à se pénétrer de l'esprit qui l'a dicté. Mais elle les avertit en même temps qu'en leur indiquant le but où ils doivent tendre, elle n'entend pas leur prescrire les bornes où ils doivent s'arrêter. Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la révolution. Il n'y a d'autre danger pour le républicain que de rester en arrière des lois de la République. Quiconque les prévient les devance. Quiconque même outrepasse en apparence le but, souvent n'y est pas encore arrivé. Tant qu'il y aura un être malheureux sur la terre, il y aura encore des pas à faire dans la carrière de la liberté. Article 1er. De l'esprit révolutionnaire. La révolution est faite pour le peuple. C'est le bonheur du peuple qui en est le but. C'est l'amour du peuple qui est la pierre de touche de l'esprit révolutionnaire. Il est bien aisé de comprendre que par le peuple, on n'entend pas cette classe privilégiée par ses richesses qui avait usurpé toutes les jouissances de la vie et tous les biens de la société. Le peuple est l'universalité des citoyens français, cette classe qui donne des hommes à la patrie, des défenseurs à nos frontières, qui nourrit la société par ses travaux, qui l'embellit par ses talents, qui l'orne et qui l'honore par ses vertus. La révolution serait un monstre politique et moral si elle eût eu pour but d'assurer la félicité de quelques centaines d'individus et de consolider la misère de 24 millions de citoyens. C'eût donc été une dérision insultante à l'humanité que de réclamer sans cesse le nom de l'égalité quand des intervalles immenses de bonheur eussent toujours séparé l'homme de l'homme et qu'on eût vu étouffer, sous les distinctions de l'opulence et de la pauvreté, de la félicité et de la misère, la Déclaration des droits qui ne reconnaissait d'autres distinctions que celles des talents et des vertus. Ceux qui, dès l'origine de la Révolution, ont su en saisir l'esprit et en favoriser les progrès, ceux-là ont dû voir qu'elle tendait à faire disparaître de dessus le sol de France les monstruosités inhumaines. Ceux-là ont vu que si une égalité parfaite de bonheur était malheureusement impossible entre les hommes, il était du moins possible de rapprocher davantage les intervalles. Ils ont vu qu'il y avait une disproportion épouvantable entre les travaux du cultivateur et de l'artisan et le modique salaire qu'il en retirait. Ils ont vu avec indignation que celui dont les mains robustes donnaient du pain à ses concitoyens, souvent en manquait lui-même et l'arrosait de ses larmes, plus encore que de ses sueurs. Ils ont jeté le regard de la philanthropie et de l'humanité sur les campagnes, dans les ateliers, dans les greniers, dans les souterrains de l'indigence, et à côté du travail, qui devait toujours être accompagné de l'aisance, ils ont vu les haillons de la misère, la pâleur de la faim. Ils ont entendu les plaintes douloureuses du besoin, les cris aigus de la maladie. D'un autre côté, ils ont vu dans les maisons de la richesse, de l'oisiveté et du vice, tout le raffinement d'un luxe barbare. Et ce qui devait être la récompense de l'industrie et de la vertu, ils l'ont vu prodiguer au sensu du peuple, à des scélérats couverts d'opprobre et de dorure, et plus engraissés de la substance du malheureux que du luxe insolent de leur repas. Enfin, pour comble d'infamie, ils ont vu le mépris de ces superbes poursuivre le pauvre dans sa chaumière. Ils ont vu ces monstres, au lieu de s'attendrir sur des maux que leur luxe seul avait causés, les aggraver par leur dédain, se croire déshonorés s'ils étaient approchés par le malheur, et s'indigner s'ils avaient respiré le même air que le pauvre. Dans ce renversement universel de principes, dans cette dégradation de l'humanité, dans cette humiliation de la vertu, il fallait un changement, une révolution totale. Car on ne peut point tergiverser avec les principes. Laisser en France un seul abus fondamental, c'eût été invité tous les autres à renaître. C'est l'hydre dont il faut abattre toutes les têtes, sous peine de les voir toutes se reproduire. C'est le tronc d'un arbre empoisonné qui, en reprenant son ombrage, sème de nouveau autour de lui des germes de mort qui en donneront d'autres à leur tour. L'aristocratie bourgeoise, si elle eût vécu, eût produit bientôt l'aristocratie financière. Celle-ci eût engendré l'aristocratie nobiliaire, car l'homme riche ne tarde pas à se regarder comme étant d'une patte différente des autres âmes. D'usurpation en usurpation, on en serait venu au point que l'on eût regardé comme nécessaire de les consacrer par quelques institutions nouvelles. Voilà le clergé et ses dogmes ressuscités. Ce n'est pas tout. Un hôtel placé isolément dans une république peut éprouver un choc et être renversé sur lui-même. On lui aurait donné un trône pour l'appuyer, pour s'étayer réciproquement, et nous voilà à la royauté. C'est là la marche inévitable. Ainsi, d'abîme en abîme, on eût ramené la France sous le joug exécrable qu'elle venait de secouer. Et ne doutez pas, citoyens, que les monstres ne l'eussent encore appesanti, qu'ils n'eussent aggravé le poids de vos torts pour vous empêcher de les soulever. Ils vous auraient puni de vos antiques élans vers la liberté. Les roues, les cachots, les corvées, les mains mortes, les dîmes, les tailles, voilà la perspective, voilà le couronnement d'une révolution incomplète. Tels sont les mots dont vous ont sauvé ceux qui ont fondé la République. La reconnaissance que vous leur devez vous impose de grandes obligations. Elles sont douces à remplir. Faites votre bonheur, ils auront la seule récompense qu'ils attendent. Républicains, pour être dignes de ce nom, commencez par sentir votre dignité, relevez avec fierté votre tête, et qu'on lise dans vos regards que vous comprenez enfin qui vous êtes et ce qu'est la République. Car ne vous y trompez pas, pour être vraiment républicain, il faut que chaque citoyen éprouve et opère en lui-même une révolution égale à celle qui a changé la face de la France. Il n'y a rien, non absolument rien de commun entre l'esclave d'un tyran et l'habitant d'un État libre. Les habitudes de celui-ci, ses principes, ses sentiments, ses actions, tout doit être nouveau. Vous étiez opprimé, il faut que vous écrasiez vos oppresseurs. Vous étiez esclave de la superstition, vous ne devez plus avoir d'autre culte que celui de la liberté. d'autre morale que celle de la nature. Vous étiez étranger aux fonctions militaires, tous les Français désormais sont soldats. Vous viviez dans l'ignorance, pour assurer la conquête de vos droits, il faut vous instruire. Vous ne connaissiez pas de patrie, jamais sa douce voix n'avait retenti dans vos cœurs, aujourd'hui vous ne devez plus connaître qu'elle. Vous devez la voir, l'entendre et l'adorer dans tout. Le magistrat ne veille, le laboureur n'ensemence, le soldat ne combat, le citoyen ne respire que pour elle. Son image sacrée se mêle à toutes ses actions, ajoute à ses plaisirs le paye de ses peines. Vive la République, vive le peuple, voilà son cri de ralliement, l'expression de sa joie, le dédommagement de ses douleurs. Tout homme à qui cet enthousiasme serait étranger, qui connaît d'autres plaisirs, d'autres soins que le bonheur du peuple, tout homme qui ouvre son âme aux froides spéculations de l'intérêt, tout homme qui calcule ce que lui vaut une terre, une place, un talent, et qui peut un instant séparer cette idée de celle de l'utilité générale, tout homme qui ne sent pas son sang bouillonner au seul nom de tyrannie, d'esclavage, d'opulence, tout homme qui a des larmes à donner aux ennemis du peuple, qui ne réserve pas toute sa sensibilité pour les victimes du despotisme et pour les martyrs de la liberté, tous les hommes ainsi faits, et qui osent se dire républicains, ont menti à la nature et à leur cœur, qu'ils fuient le sol de la liberté. Ils ne tarderont pas à être reconnus et de l'arroser de leur sang impur. La République ne veut plus dans son sein que des hommes libres. Elle est déterminée à exterminer tous les autres et à ne reconnaître pour ses enfants que ceux qui ne sauront vivre, combattre et mourir que pour elle. Article 2. Arrestation des gens suspects. Des principes simples et lumineux que nous venons de vous rappeler, il suit que le républicain ne peut plus vivre avec l'esclavage. Celui-ci, par ses crimes et ses bassesses, a fatigué notre patience. Depuis 5 ans, nous lui tendons les bras. Il a dédaigné nos avances. Il est temps qu'il expie ses dédains et qu'il apprenne au moins le prix de la liberté par le sacrifice forcé de la sienne. C'est ici que le désir d'une vengeance légitime devient un besoin impérieux pour celui qui consulte l'intérêt public. Car l'intérêt public veut que l'on répande la terreur parmi les ennemis, que l'on rompe tous les fils des conspirations qu'ils ourdissent, qu'on les punisse de leurs crimes et qu'on les prive d'un bonheur qu'ils ne veulent pas connaître. C'est dans cette grande mesure prescrite par les décrets de la Convention nationale que doit surtout paraître le zèle et l'activité patriotique des municipalités et des autorités révolutionnaires. C'est ici que doivent s'évanouir toutes les considérations, tous les attachements individuels. C'est ici que la voix du sang même se tait devant la voix de la patrie. Vous habitez un pays qu'une rébellion infâme a souillé. Eh bien, citoyens, magistrats du peuple, il faut que tous ceux qui ont concouru d'une manière directe ou indirecte à la rébellion portent leur tête sur un échafaud. C'est à vous de les remettre entre les mains de la vengeance nationale. Nous ne vous parlons pas seulement ici de prêtres, des nobles, des parents d'émigrés, des administrateurs et autres fonctionnaires parjures, sur lesquels la loi a prononcé expressément. Nous présumons qu'à cet égard, vous avez fait votre devoir. Vous en répondez sur votre tête. Mais nous vous parlons spécialement de tous les hommes qui, sans être compris nominativement dans les décrets, sont désignés par eux à la surveillance nationale. Nous vous parlons de ces hypocrites qui n'ont eu à la bouche que les mots de respect, de loi et des personnes, et qui tous les jours opprimaient vos personnes et violaient à l'égard du malheureux la plus sainte des lois, celle de l'humanité et de la nature. Nous vous parlons de ces hommes durs et insensibles, par habitude et par état, qui ne peuvent point aimer la révolution parce qu'elle contrarie leurs préjugés, qu'elle anéantit leurs espérances et qu'elle tue leur cupidité. Ce sont ces êtres qui s'intitulaient hommes de loi et qui auraient dû s'appeler hommes de sang, qui ne vivaient que des dissensions de leurs frères et de l'aliment éternel qu'ils fournissaient à la discorde et à la haine. Ce sont tous ces chiens courants de la féodalité qui tenaient registre de ce que leur valaient les exactions, les friponneries, les usurpations de vos tyrans et qui fondaient l'espérance de leur dîner sur vos larmes et sur vos soupirs. Ce sont tous ces êtres fanatiques qui se sont prononcés pour des prêtres rebelles à la loi, ce sont enfin tous ceux qui, à l'époque de la lutte de la liberté contre les aristocrates de Lyon, ont marqué pour les scélérats une tendresse criminelle, un intérêt parricide. Qu'est-il besoin de vous en dire davantage? Si vous êtes patriote, vous saurez distinguer vos amis. Vous séquestrerez tous les autres. Vous ne serez pas assez imbécile pour regarder comme des actes de patriotisme quelques actions forcées et extérieures par lesquelles les traîtres ont souvent cherché à mieux vous abuser. Voici le langage que la plupart d'entre eux vous tiendront. Mais qu'a-t-on à nous reprocher? Nous nous sommes toujours bien montrés. Nous avons fait notre service dans la garde nationale. Nous avons payé toutes nos contributions. Nous avons déposé les offrandes sur l'autel de la patrie. Nous avons même envoyé nos enfants à la défense des frontières. Qu'exige-t-on? Que veut-on encore de nous? Vous leur répondrez, « Peu nous importe. Le patriotisme est dans le cœur. Tout ce que vous vantez là, les scélérats qui nous ont trahis, les Lafayette, les Dumouriez, les Custine, en avaient fait encore davantage. Vous n'avez jamais aimé le peuple, vous avez traité l'égalité de chimère, vous avez osé sourire à la dénomination de sans-culotte. Vous avez eu du superflu à côté de vos frères qui mouraient de faim. Vous n'êtes pas digne de faire société avec eux, et puisque vous avez dédaigné de les faire siéger à votre table, ils vous vomissent éternellement de leur sein, et vous condamnent à votre tour à porter les fers que votre insouciance ou que vos manœuvres criminelles leur préparaient. Républicains, voilà vos devoirs. Qu'aucune considération ne vous arrête. Ni l'âge, ni le sexe, ni la parenté ne doivent vous retenir. Agissez sans crainte, ne respectez que les sans-culottes. Et pour que la foudre ne s'égare jamais dans vos mains, souvenez-vous de la devise que portent les bannières des sans-culottes, « Paix aux chaumières, guerre au château. » Article 3. Taxe révolutionnaire des riches. Il faut frayer aux dépenses de la guerre et fournir à tous les frais de la révolution. Qui viendra au secours de la patrie et de ses besoins si ce ne sont les riches? S'ils sont aristocrates, il est juste qu'ils payent une guerre que seuls et leurs adhérents ont suscitée. S'ils sont patriotes, vous irez au-devant de leurs vœux en leur demandant de faire de leur richesse le seul emploi qui convienne à des républicains, c'est-à-dire un emploi utile à la République. Ainsi, rien ne peut vous dispenser d'établir promptement cette taxe. Il ne faut point ici d'exemption. Tout homme qui est au-dessus du besoin doit concourir à ce secours extraordinaire. Cette taxe doit être proportionnée aux grands besoins de la patrie. Ainsi, vous devez commencer par déterminer, d'une manière grande et vraiment révolutionnaire, la somme que chaque individu doit mettre en commun pour la chose publique. Il ne s'agit pas ici d'exactitude mathématique, ni de ce scrupule timoré avec lequel on doit travailler dans la répartition des contributions publiques. C'est ici une mesure extraordinaire qui doit porter le caractère des circonstances qui la commandent. Agissez donc en grand. Prenez tout ce qu'un citoyen a d'inutile, car le superflu est une violation évidente et gratuite des droits du peuple. Tout homme qui a au-delà de ses besoins ne peut pas user, il ne peut qu'abuser. Ainsi, en lui laissant ce qui lui est strictement nécessaire, tout le reste appartient à la République et à ses membres infortunés. Voici, à cet égard, la marche que les municipalités et comités révolutionnaires ont à tenir. Ils doivent, dans la sincérité de leur âme, et après s'être dépouillés de tout esprit de faveur, de haine et de partialité, examiner quels sont les besoins réels de chaque famille, les déterminer d'après le nombre des enfants et des employés nécessaires, peser les gains et les profits que la Révolution a dû vraisemblablement porter dans la maison, et fixer tout ce qu'il excède comme un tribut de justice dû à la Révolution. Il est nécessaire de suivre dans cette mesure une échelle graduée sur des proportions révolutionnaires. Celui qui a 10 000 livres de rente, par exemple, doit payer au moins 30 000 livres, car il est évident qu'il a pu trouver dans les années précédentes ou qu'il trouvera dans les années suivantes de son revenu de quoi établir la dépense nécessaire à un républicain. Nous prévenons en même temps les municipalités et comités révolutionnaires que ce n'est pas seulement sur cet objet que doit porter la taxe établie sur les riches. Toutes les matières dont ils regorgent et qui peuvent être utiles aux défenseurs de la patrie les réclame dans cet instant. Ainsi, il y a des gens qui ont des amas ridicules de draps, de chemises, de serviettes et de souliers. Tous ces objets et d'autres semblables sont de droit la matière des réquisitions révolutionnaires. De quel droit un homme garderait-il dans ses armoires des meubles, des vêtements superflus, lorsque ses concitoyens, qui versent leur sang pour défendre ses propriétés, manqueraient des choses les plus indispensables à la vie, à la santé, à la satisfaction des besoins les plus ordinaires? Il est encore une matière précieuse à requérir, ce sont ces métaux vils et corrupteurs que dédaigne le républicain, qu'il n'estime qu'autant qu'ils lui servent à conquérir des soldats à la liberté et des déserteurs à l'esclavage. Il était permis à des rois de ceindre leur front d'une couronne d'or et de boire dans des coupes précieuses le sang, les sueurs et les larmes du peuple. Mais le républicain ne doit connaître que le fer. C'est avec ce métal plus riche, parce qu'il est plus utile, qu'il féconde ses campagnes et qu'il attaque ses ennemis. Le soc et l'épée sont ses instruments favoris. Sparte commença d'être esclave lorsqu'Athènes eut fasciné ses yeux par le spectacle de ses métaux. Républicains français, élevez votre âme au-dessus de ces jouissances insignifiantes et viles qui, par un appareil de faste et de luxe, ne tendent qu'à confirmer l'antique inégalité entre les hommes. Qu'ainsi, à votre voix, tous ces métaux s'écoulent dans le trésor national et qu'en y recevant l'empreinte de la République, et après avoir été purifiés par le feu, ils ne coulent plus que pour l'utilité générale. De l'acier, du fer, et la République sera triomphante. Article 4. De l'approvisionnement des marchés et des mesures à prendre sur les subsistances. La grande espérance des contre-révolutionnaires était celle d'affamer le peuple. Ils comptaient sur les riches propriétaires, sur les gros fermiers, sur les accapareurs, et ils osaient croire que la famine conquérerait la France à l'esclavage. La Convention nationale a déjoué leur projet. Elle a décrété, ou plutôt elle a proclamé le grand principe que les productions du territoire français appartiennent à la France, à la charge de l'indemnité due aux cultivateurs. Le peuple a donc un droit assuré sur les fruits qu'il fait naître. Il n'est donc plus exposé à voir les grains que ses travaux ont produits engraisser quelques tyrans privilégiés et quelques douzaines de propriétaires oppresseurs. Il n'est donc plus permis à un possesseur inique de faire la loi au peuple et de tenir à ses gages des hommes laborieux de qui seul dépend son existence. Tels sont les principes fondamentaux dont les autorités et les citoyens doivent se pénétrer. Car un homme ne sera jamais libre tant qu'il croira que son existence et celle de sa famille dépendent du caprice d'un autre homme. Cela posé, les comités révolutionnaires ou les comités de subsistance doivent spécialement s'occuper du soin d'approvisionner les marchés. C'est là que doivent s'apporter les tribus de la terre, puisque c'est là que, sans distinction, de riches ni de pauvres, tous les citoyens vont s'approvisionner. Il y a eu, nous le savons, des recensements ordonnés par la loi, mais la cupidité a fait faire de fausses déclarations. Les patriotes doivent les vérifier et confisquer impitoyablement tout ce qui sera marqué du sceau de l'imposture. Du reste, les bons citoyens des campagnes doivent se rappeler que c'est à elles à approvisionner les armées et les villes, que les armées et les villes travaillent aussi pour les campagnes, que ce sont elles qui les défendent et qui, en échange de leurs denrées, leur rendent des tributs utiles et une protection nécessaire. Citoyens des campagnes, nous vous l'avons déjà dit, favorisez la circulation des subsistances et vous trouverez dans un juste retour de la part des consommateurs la récompense du zèle que vous aurez mis à exécuter des lois dont l'infraction causerait votre perte. Article 5. Extirpation du fanatisme. Les prêtres sont les seules causes des malheurs de la France. Ce sont eux qui, depuis 1300 ans, ont élevé par degrés l'édifice de notre esclavage, l'ont orné de tous les colifichets sacrés qui pouvaient en dérober les défauts à l'œil de la raison et à la faux de la philosophie. Ce sont eux qui ont asservi l'esprit humain sous leurs imbéciles préjugés et qui, pour comble d'infamie, ont sanctifié, par leurs impostures bénites, les erreurs dont ils ont enivré les siècles. Il est évident que la Révolution, qui est le triomphe des Lumières, ne peut voir qu'avec indignation la trop longue agonie de cette poignée de menteurs. Leur règne expire et fait place à l'empire du bon sens et de la raison. Il est du devoir des patriotes d'en accélérer les progrès et d'insinuer dans l'esprit de leurs concitoyens moins éclairés les principes réformateurs de la Révolution française. Et d'abord, citoyens, les rapports de Dieu à l'homme sont des rapports purement intérieurs et qui n'ont pas besoin, pour être sincères, du faste du culte et des monuments apparents de la superstition. Vous commencerez par envoyer au trésor de la République tous les vases, tous les ornements d'or et d'argent qui peuvent flatter la vanité des prêtres, mais qui sont nuls pour l'homme vraiment religieux et pour l'être qu'il prétend honorer. Vous anéantirez tous les symboles extérieurs de la religion qui couvrent les chemins et les places publiques, parce que les chemins et les places publiques sont la propriété de tous les Français, et que tous les Français, n'ayant pas le même culte, en flattant inutilement la crédulité des uns, vous attaqueriez les droits et vous choqueriez les regards des autres, parce que la France ne reconnaît pas de religion dominante et qu'en les tolérant toutes, elle ne doit permettre à aucune d'usurper sur ses rivales une suprématie, une autorité prépondérante, ni par conséquent aucun des signes extérieurs qui la supposent. Républicains, nous vous parlons ici le langage de la vérité, nous vous la devons tout entière. Lorsque la France n'était qu'un royaume, lorsqu'il n'existait point pour vous de patrie, vos âmes, ardentes et sensibles, avaient besoin peut-être d'un aliment extraordinaire, et vous le trouviez, cet aliment, dans les pratiques superstitieuses de quelques vertus que vous vous étiez forgées. Et dans ces moments d'affaissement et de fatigue, votre cœur généreux se reposait avec plaisir dans les idées d'un bonheur que vous ne pouviez pas trouver sur la terre. Mais il est pour le républicain des jouissances indicibles qui attachent l'imagination, qui remplissent l'âme et qui, l'élevant par des sensations nobles et grandes au-dessus d'elle-même, la rapprochent réellement de cette essence suprême dont elle découle. Le républicain n'a d'autre divinité que sa patrie, d'autre idole que la liberté. Le républicain est essentiellement religieux, car il est bon, juste, courageux. Le patriote honore la vertu, respecte la vieillesse, console le malheur, soulage l'indigence, punit les trahisons. Quel plus bel hommage pour la divinité! Le patriote n'a pas la sottise de prétendre l'adorer par des pratiques inutiles à l'humanité et funeste à lui-même. Il ne se condamne pas à un célibat apparent pour se livrer plus librement à des débauches. Digne enfant de la nature, membre utile de la société, il fait le bonheur d'une épouse vertueuse, il élève des enfants nombreux dans les principes sévères de la morale et du républicanisme. Et lorsqu'il touche au terme de sa carrière, il lègue à ses enfants, pauvres comme lui, les exemples des vertus qu'il leur a données, et à la patrie, l'espérance de le voir renaître dans des enfants dignes de lui. Rentrez dans votre cœur, braves et généreux républicains, et dites-nous à qui vous aimeriez mieux ressembler, de ces cagots exécrables ou de ces hommes patriotes dont nous venons de vous retracer une faible image. Eh bien, apprenez que ces scélérats avaient encore l'audace de damner éternellement les hommes qui s'étaient dévoués à votre bonheur, qui se sont occupés de votre liberté et qui ont prêché et établi la restauration de vos droits. À la vérité, plusieurs ont déjà fait réparation d'honneur au genre humain des impostures qu'ils lui avaient prêchées. Plusieurs ont abjuré la profession sacrilège qui leur imposait l'obligation de tromper et de persécuter leurs semblables. Bientôt leur exemple sera suivi par tous ceux chez qui le bonnet sacerdotal n'a pas encore éteint toutes les lumières de la raison, ni étouffé même la voix de leur intérêt bien entendu. Quant aux autres, ils ne tarderont pas à apprendre que la République ne veut plus nourrir ni fainéants, ni traîtres, ni imposteurs. Et toutes les communes de la République ne tarderont pas à imiter celle de Paris, qui, sur les ruines d'une église gothique, vient d'élever un temple à la raison. Républicains, en vous traçant rapidement cet aperçu de vos devoirs, la Commission temporaire de surveillance républicaine vous répète qu'elle n'a ni pu ni prétendu tout vous dire. Il est des choses qu'on ne peut qu'indiquer, mais qui sont saisies par l'œil pénétrant du patriotisme et dont il sait bien faire son profit. Veillez, vous avez tous de grands torts à expier. Les crimes des rebelles lyonnais sont les vôtres. Si vous aviez eu cette attitude fière et républicaine qui annonce et qui caractérise l'homme libre, jamais des scélérats n'eussent osé tenter un effort contre la patrie, ou du moins ils n'eussent pas eu une seule minute à s'en applaudir. Regagnez donc promptement, dans le chemin de la liberté, tout le terrain que vous y avez perdu, et reconquérez, à force de vertu et d'efforts patriotiques, l'estime et la confiance de la France. La Convention nationale, les représentants du peuple, ont les yeux sur vous, sur vos magistrats. Le compte qu'ils vous demanderont sera d'autant plus sévère que vous avez plus de fautes à vous faire pardonner. Et nous, qui sommes les intermédiaires entre eux et vous, nous qu'ils ont chargés de vous surveiller, de vous instruire, nous vous jurons que nos regards ne s'écarteront pas un instant de dessus vous, que nous emploierons avec sévérité toute l'autorité qui nous est déléguée et que nous punirons comme perfidie tout ce que dans d'autres circonstances vous auriez pu appeler lenteur, faiblesse ou négligence. Le temps des demi-mesures et des tergiversations est passé. Aidez-nous à frapper les grands coups où vous serez les premiers à les supporter. La liberté ou la mort. Réfléchissez et choisissez. Signé Duhamel, président. Perrotin, vice-président. Guillon, Sadet, Boissière, Agard, Marcilla, Terret, Fusy, Vauquois, Richard, Lafaille, Vert, procureur général. Duviquet, secrétaire général. La commission arrête que la présente instruction sera soumise à l'approbation des représentants du peuple pour être imprimée et affichée. Fait en commission à Villafranchi, le 26 de Brumaire, l'an second de la République française, une, indivisible et démocratique. Signé Duhamel, président, Vert, procureur général, Duviquet, secrétaire général. Pour approbation de l'arrêté, signé Collot d'Herbois, Fouché, représentant du peuple.